from Bordeaux Prison and Riviere de Prairie Prison by calling 514-876-3748. We also have a number for non-collect calls. That number is 438-337-8423. Feel free to call that number and leave a message for us with news to share on the show or an audio message for your loved ones inside.
You know, it's the boy Dash all the way from Grenada and he tuned into C-Cut 90.3 FM.
Bonjour et bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, musique, humour, littérature et pétrole, l'Association historique francophone de Victoria retrace le parcours de 13 femmes qui ont marqué l'histoire du Grand Victoria.
On s'est dit, on va trouver 12 femmes dans notre histoire francophone, 100 ans, qui auraient pu laisser leur trace dans l'histoire.
L'humoriste québécois Louis T. était récemment de passage à Yellowknife, le temps d'un numéro livré en chair et en os devant public, exotique, n'est-ce pas? Thomas Etier l'accueillit à sa sortie de scène.
Je vois, là, je perçois qu'il y a une volonté d'avoir une vie culturelle, d'avoir quelque chose que tu n'as pas toujours dans les mines du nord du Québec où les gens viennent faire un chiffre de trois semaines puis qu'ils repartent après, puis là, c'est juste ça. Non, ici, il y a une vie de communauté, c'est ça qui est particulier aussi.
La culture n'est pas un luxe. Une commission scolaire de la Nouvelle-Écosse mise sur la culture pour nourrir l'imaginaire et l'identité d'élèves du secondaire. L'artiste canado-haïtien Wesley refait ses classes.
Je veux raconter mon histoire aux élèves. Je défends beaucoup la créolité et la francophonie à travers le Canada. Avant tout, il faut avoir son rêve et construire le chemin, surtout pour se rendre à ce rêve-là.
Et les pétrolières albertaines peinent à payer leurs factures. Des municipalités tapent du pied. Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
L'artiste canado-haïtien Wesley part à la rencontre des élèves pour partager son histoire et son expérience de vie, aussi bien personnelle qu'artistique. Vous savez qu'on dit que la culture n'est pas un luxe et que la rencontre avec l'art ne peut être le seul fruit de la naissance ou du hasard. Eh bien, le Conseil scolaire canadien provincial, le seul conseil scolaire francophone de la Nouvelle-Écosse, considère donc que cette rencontre doit avoir lieu le plus rapidement possible. Le conseil scolaire qui éveille les enfants à la diversité culturelle à travers plusieurs événements artistiques. Le chanteur Wesley est allé donc à la rencontre des élèves du secondaire de plusieurs écoles de la province. Je veux raconter mon histoire aux élèves. Je pense que mon histoire inspirerait beaucoup d'entre eux. Je veux être un ambassadeur de la musique créole et de la francophonie. Je tiens à jouer mon rôle de façon positive, affirme l'artiste Wesley, que notre journaliste Sébastien Beltran, posté en Nouvelle-Écosse, a eu la chance de rencontrer.
Et voilà, je suis Wesley, je suis né en Haïti, je suis arrivé au Canada quand j'avais 19 ans, 20 ans. J'étais arrivé pour étudier de la musique ici, mais j'ai commencé très très loin, très très bas, avec une famille très pauvre. On est 7 enfants de la famille et mon père était un musicien de troubadour qui jouait sur les plages pour les touristes. Et mon père aussi jouait la guitare et les percussions. Et puis, il m'emmenait tout le temps sur la plage avec lui parce que c'était une façon de me garder. Parce que même, et ma mère faisait d'autres petites jobbing par-ci, par-là pour subvenir aux besoins de cet enfant. Alors, pour moi, j'ai été par défaut rentré dans la musique à force que les parents étaient dedans.
Wesley raconte comment, avec deux fils de pêche et un bidon d'huile trouvé sur les plages de Port-au-Prince, il fabrique sa première guitare. Et ce n'est qu'à la faveur d'une bourse d'études qu'il quitte son île en 2009 pour s'installer au Québec et rencontrer ses premiers succès.
Exactement, j'ai eu un public tout de suite parce que j'ai commencé à jouer dans les bars, j'ai commencé avec plein de monde, j'ai joué la guitare pour plein d'artistes aussi qui me montrent comment le métier fonctionne. J'ai travaillé aussi avec des gens en Afrique pendant que je suis ici. J'étais allé en Afrique avec Tikenja, Alpha Blondy et tout ça. Ils m'ont montré vraiment, ils m'ont coaché comment ça marche dans l'industrie. Avant que j'ai commencé ma carrière solo, j'ai été quand même coaché, j'ai été quand même entraîné et puis conseillé par des grands artistes africains qui m'ont vraiment mis sur ce chemin. Et puis, dès que la carrière a commencé ici, il y a beaucoup de territoires qui sont entrés en ligne de compte, tels que l'Afrique, la France, l'Hollande, l'Allemagne, la Suisse et tout ça, l'Europe au complet. Et puis, ça m'a mis les vents dans les voiles. Et puis, bon, je suis ce que je suis aujourd'hui, mais si je n'étais pas venu ici, si je n'étais pas au Canada, c'est sûr que je ne serais rien.
Comme Wesley le dit si bien, son succès, il le doit à son travail, à ses rencontres, mais aussi à son histoire personnelle qui l'inspire et qui a forgé chez lui un esprit opiniâtre, audacieux et combatif.
La musique de Wesley, c'est sûr, ça imprègne de l'histoire de Wesley. Parce qu'avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu en Haïti, en plus à aller sur la terre-mer en Afrique, de voir comment qu'il y a beaucoup de similarités entre Haïti et l'Afrique, les mêmes misères, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que nous avons dans ce monde. Alors, ça a vraiment conscientisé ma musique d'une manière positive, en fait. J'ai pas dit, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est négatif, qui est désespéré, mais tu vois, je suis quelqu'un qui voit l'espoir surtout, malgré tout. Je veux raconter mon histoire aux élèves, parce qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui me voient, qui ne savent pas d'où je viens, comment je fais, et je pense que mon histoire inspirerait beaucoup d'élèves dans la francophonie. Surtout, je défends beaucoup la créolité et la francophonie à travers le Canada. Je suis une figure d'ambassadeur pour la musique créole, qu'il y a beaucoup de similarités avec la musique acadienne en passant. Je suis aussi un ambassadeur pour la francophonie. Je tiens à jouer mon rôle d'une façon positive. C'est pour ça que quand on me dit de jouer dans les écoles, je sais que je vais être en face avec la prochaine génération, que je vais leur dire ça aussi. Il faut qu'ils fassent travailler leur inspiration et travailler leur tête pour pouvoir trouver des manières de construire leur propre chemin. Parce que avant tout, faut avoir son rêve et construire le chemin. Surtout pour se rendre à ce rêve-là.
Ce témoignage inspirant incite sans détour au courage, au travail et à l'humilité. Il contribue à éveiller l'empathie et le sens critique des enfants. Le volontarisme en faveur de l'éducation artistique et culturelle conduit le CSAP à multiplier ses initiatives, des initiatives indispensables pour la découverte du monde et de ses richesses.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
L'humoriste québécois Louis T est récemment de passage au NACC de Yellowknife, le temps d'un numéro livré en chair et en os devant un public d'environ 70 franco-ténois. L'artiste de renom, qui n'avait jusqu'alors jamais mis les pieds en territoire nordique, a eu l'occasion d'explorer Yellowknife avant de poursuivre sa tournée vers Iqaluit au Nunavut. Notre journaliste Thomas Etier a accueilli l'humoriste québécois dès la fin de son spectacle. Thomas a discuté avec lui de son voyage dans le nord, du public franco-ténois et de ce qui l'allume, bien sûr.
Je suis avec l'humoriste Louis T. On est dans la loge du NAC. Comment ça s'est passé? Comment a été le public des territoires du Nord-Ouest?
Ah, je suis vraiment satisfait. Je mentirais pas, j'étais un peu nerveux au début avant de monter sur scène en me demandant est-ce que je vais avoir trop de références envers le Québec? Est-ce que là, j'étais comme un peu challengé par tout ça? Mais en même temps, je savais que dans ce type de spectacle-là, les gens sont quand même reconnaissants parce qu'ils savent que tu as fait un long chemin pour venir les voir. Fait que c'est la rencontre de moi qui est heureux d'être ici puis de eux qui sont heureux que je sois ici, mais d'être ici aussi. Fait que, tu sais, ce genre de spectacle-là, habituellement, c'est toujours assez le fun. Puis ça a été ce genre de spectacle-là qui était le fun.
Le public était sans doute, enfin, avait l'air très heureux de vous voir. Qu'est-ce que ça fait de jouer comme ça à un public qui sort un peu de cette sorte de confinement-là?
En fait, ça fait plusieurs fois qu'on le vit, cette espèce de regain-là. Je pense que c'est le vrai, je le souhaite, j'espère que c'est fini pour de vrai, mais... les gens sont contents de se voir aussi. Tu sais, je me prends pas toute la responsabilité du plaisir que les gens ont eu, ne serait-ce que parce que je pense qu'ils sont contents de se voir eux aussi. Tu sais, on est contents de pouvoir se rassembler, de se sentir relativement en sécurité dans tout ça. Alors, jouer devant un public qui n'a pas pu voir du monde depuis longtemps ou des spectacles en vrai, ben c'est un luxe que j'espère pouvoir profiter. Je voudrais faire des spectacles chaque soir en ce moment parce que partout, les gens ont soif de ça. C'est vraiment agréable. C'est le fun. Puis ça, de mon côté, ça me rappelle comment j'aime ce métier-là. Puis je pense que les gens, ça leur rappelle aussi comment les arts vivants de la scène, c'est comme important. On s'est pris pour acquis peut-être dans les dernières années. Puis là, on se retrouve, puis on est heureux. J'espère que ce feeling-là va rester encore.
C'est votre premier voyage dans le Grand Nord canadien. Comment est-ce que vous trouvez le Grand Nord?
Ah, je suis tellement reconnaissant puis content de vivre cette expérience-là. Je veux dire... je pense que j'ai tanné mon entourage depuis plusieurs semaines. Puis là, même en étant ici, j'arrête pas d'écrire à tous mes amis, de prendre des photos. Je suis conscient de vivre de quoi que peu de gens vivent. Fait que c'est le fun. Pour moi, tu sais, Yellowknife, c'est niaiseux, mais Yellowknife, puis l'Égypte, puis Paris. Puis non, mais c'est vrai, là, ça fait partie des expériences et des villes que je vais pouvoir mettre sur ma liste que j'ai vue. Puis je suis vraiment content.
Vous avez eu le temps de faire un peu le tour de Yellowknife?
Ouais, ça n'a pas été très long, mais oui, j'ai fait le tour de Yellowknife. Là. On se mentira pas. Là. Hier, en marchant, j'ai failli manquer le centre-ville là, parce que je suis passé devant. Mais non, oui, j'étais allé me promener un peu. J'étais allé bouquiner, j'étais allé m'acheter des livres. Ce que je fais dans chaque ville où je vais, je trouve toujours ça le fun d'aller dans une librairie. Mais oui, je me suis promené un peu.
L'œil de l'humoriste, qu'est-ce qui a capté l'œil de l'humoriste en vous?
Ben là, je fais attention parce que là, je veux pas dire des choses qui seraient insensibles, mais tu sais... Ça ressemble à Val-d'Or, OK? Ça ressemble à Val-d'Or, si j'avais à décrire ça à des gens au Québec, mais il y a quand même des particularités de l'isolement, de la distance. Tu sais, les villes nordiques, mais je suis jamais allé à une ville aussi nordique que ça, mais je suis allé dans le nord du Québec, tu sais. Les villes nordiques ont un type d'habitation, de construction qui peut se ressembler, mais ici, c'est juste... C'est unique, c'est vraiment loin. C'est vraiment très loin, tu sais, les gens... Ils ne peuvent pas prendre leur voiture puis dans 3 heures retourner, faire d'autres choses, aller ailleurs. T'sais. Non, c'est ici que ça se passe. C'est cette expérience-là que tu sens qui est spéciale. Puis on n'est pas... Il n'y a pas un feeling de ville minière uniquement de travail. C'est que tu vois, je perçois qu'il y a une volonté d'avoir une vie culturelle, d'avoir quelque chose que tu n'as pas toujours dans les mines du nord du Québec où les gens viennent faire un chiffre de trois semaines puis qu'ils repartent après. Puis là, c'est juste ça. Non, ici, il y a une vie... De communauté. C'est ça qui est particulier aussi.
Et vous parlez beaucoup d'actualité dans votre spectacle. Vous le présentez comme ça. Est-ce que vous avez eu le temps un peu de vous attarder aux actualités des territoires du Nord-Ouest ou de Yellowknife?
Ah, j'étais allé après-midi, j'allais regarder comme... je lisais sur la mairesse. Puis là, je me disais, je vais-tu parler de ça? Puis j'avoue que j'ai un peu... j'ai parlé en début de spectacle, j'ai raconté un peu mon expérience en arrivant ici, l'aéroport, des trucs comme ça, mais... Je lisais, puis je fais comme « Ah non, là, je me suis pas attaqué à l'actualité. » J'ai comme choqué. J'ai lu la page Wikipédia de Yellowknife, puis après ça, je suis allé sur le site du conseil municipal. Puis là, j'ai vu regarder les dernières affaires qui avaient été votées, puis non, ça m'a pas tant intéressé.
Ben, c'est quand même beaucoup, le site du conseil municipal.
Ouais, ben c'est toujours une mine d'or de qu'est-ce qui se passe dans une ville, là, qu'est-ce qu'ils ont dit. Je suis allé sur la page de la mairesse, la page Facebook, voir...
qu'est-ce qu'elle disait. Mais non, mais j'avais rien à faire après-midi. Là. Ça n'a pas été long visiter le centre-ville. Je suis retourné à la chambre d'hôtel puis j'ai lu.
Ben, si vous la croisez, elle parle très bien français. Rebecca Alty.
Oui. C'est mentionné qu'elle était bilingue puis qu'on peut lui écrire nos questions en français ou en anglais.
Vous parliez d'un peut-être d'un regain de créativité artistique. Sur un plan plus large, si on parle du monde en ce moment, on a l'impression que ça va mal, qu'il y a des nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles à tous les jours. Ça fait peur un peu. Dans ce genre de situation-là, est-ce que c'est plus difficile ou est-ce que c'est plus facile d'inventer des blagues?
Ah, ça dépend. T'sais, il faut se protéger. Il faut avoir une espèce de... Je fais attention. Des fois, je vais pas trop m'informer si je me sens plus fragile. C'est pas l'émotion dans laquelle j'aime créer, tu sais. J'essaie de trouver du drôle dans quelque chose de sérieux des fois, mais si je pars, moi, avec une espèce de mélancolie, c'est pas très efficace. Fait que ça peut être dur, mais je sens pas le climat social nécessairement lourd en ce moment. Les nouvelles peuvent l'être, mais le climat social, pas nécessairement. Fait que tu choisis tes moments.
Et sans dévoiler quoi que ce soit, ou peut-être un peu, libre à vous, qu'est-ce qui inspire Louté en ce moment?
C'est drôle, hein, parce qu'il y a des fois que j'ai beaucoup d'idées numéros, j'ai des grandes idées numéros, puis là, en ce moment, avec l'espèce de... J'ai le goût de bonne humeur, j'ai le goût de léger, ça reste sur l'actualité. J'ai le goût d'écrire sur l'actualité, mais j'ai le goût de faire rire les gens. Ça a été, dans les deux dernières années, c'est ce qui a été le plus tough des fois. Je me suis beaucoup prononcé sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai fait des spectacles aussi, beaucoup en numérique. Mais là, j'ai le goût de faire rire les gens. Puis d'être l'espèce de comic relief, de faire sourire malgré ça, ça me fait du bien. Bien, c'est ça que j'ai le goût de faire.
Comment vous allez passer votre dernière soirée à Yellowknife?
Je vais essayer d'être en forme demain. C'est ça, là, mon objectif. Là, tu sais, parce qu'après un spectacle, t'es un peu grisé, t'as l'adrénaline, t'es... Puis là, t'es pas fatigué, tu sais, parce que tu viens de monter, t'es vraiment crinqué. Fait que faut pas que j'abuse parce que mon avion est demain à 8 h le matin. Cela dit, je suis plus fatigué que d'habitude parce qu'il est 2 h plus tard pour moi. Ce soir, le spectacle, il était. Mon corps, il l'a senti commencer à 10 h, pas à 8 h. Fait que moi, il est minuit en ce moment-là. Fait que probablement que je vais toffer moins tard que d'habitude. Puis de toute façon, à quelle heure? Là, je me retrouve. Il est pas 10. Je sais plus quelle heure il est. 9 h 30, en fait, les bars, ils ferment à... C'est encore vert. Ah ouais, c'est ça. Ben, je vais aller dans un bar prendre un verre. C'est sûr qu'il faut que je décante ça, parce que sinon, je suis seul dans une chambre d'hôtel après un spectacle. Tu as plein de gens qui t'ont dit « waouh, waouh », puis là, tu te retrouves seul, puis ça, c'est un peu triste. Ça fait clown triste. Faut que j'aille voir du monde encore.
Bonne soirée, Louis T. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'Association francophone de Victoria vient de publier un livre largement illustré qui étale au grand jour le parcours de 13 femmes qui ont marqué l'histoire du Grand Victoria de 1800 à nos jours. Le livre, qui s'intitule « Images des pionnières francophones du Grand Victoria », se veut un prétexte pour parler de la condition des femmes à travers les siècles, certainement, mais aussi de dévoiler l'impact que ces femmes ont eu sur la vie, la culture, l'histoire et la politique de la province et de la région du Grand Victoria. Par exemple, de savoir que Amelia Douglas, qui a vécu de 1812 à 1890, était l'épouse de James Douglas, premier gouverneur de la colonie de la Colombie-Britannique. Née d'un père irlandais québécois et de Miu Nipi, la fille d'un chef Cree du Manitoba, Amelia arrive à Victoria avec James en 1848. Elle était infirmière et sage-femme à l'époque. Elle lutte aussi contre les préjugés sociaux qui entachent alors la jeune colonie. Ou encore d'en apprendre plus sur Plushiri Mbusi, née en 1968 et qui a fondé en 2012 l'African Arts and Culture Community Contributor Society. Alors Angélique Germain, postée à Victoria, en parle en compagnie de Marie-Hélène Bourret, directrice de l'Association historique francophone de Victoria.
Les femmes, on le sait, sont souvent les grandes oubliées de l'histoire. Alors, peu importe, tout pays confondu, toute époque confondue, on oublie souvent les femmes. Et c'est sûr que l'histoire qu'on entend, ce qui est mis de l'avant, ben c'est toujours l'histoire des gagnants. Hein? L'histoire des perdants, on n'en entend pas souvent parler. Et si on regarde ce que les femmes ont vécu à travers les millénaires, on ne peut pas vraiment dire qu'on était sur le top de nos affaires. Hein? On était souvent, et on l'est encore, à bien des points de vue, perdantes. Alors, c'est dit, puisque l'histoire, c'est pas seulement l'histoire des généraux, des envahisseurs, on parle souvent du nombre de morts, de territoires conquis ou volés. Mais est-ce qu'on parle des gens de tous les jours, là, les petits gens là, comme nous, là, tu sais? On s'est dit, les femmes, là-dedans, on en parle encore moins. Puis on s'est dit, on va trouver 12 femmes dans notre histoire francophone, 100 ans, qui ont ou qui auraient pu laisser leur trace dans l'histoire.
C'est important de soulever la part historique des femmes qui est souvent mise sur le côté. Et maintenant, comment a été fait le choix de ces femmes-là en particulier?
On avait un temps limité pour trouver ces femmes-là. On avait déjà quelque chose dans nos archives. Des articles qui avaient été écrits dans les deux livres qui ont été écrits par nos prédécesseurs à l'association historique, c'est-à-dire Présence francophone à Victoria, tome 1, tome 2. Alors, on avait quand même déjà des biographies, on les a remaniées, on a fait d'autres recherches, il y a des personnages nouveaux qui se sont inscrits, qui n'étaient pas dans les archives que l'on avait déjà. Et c'est comme ça. Donc, on a lu, on a relu, on a parlé à certaines des pionnières. Et on a parlé à 4 des pionnières qui sont toujours vivantes pour aller donc mettre à jour l'information qu'on avait à leur sujet.
J'imagine que c'est encore plus enrichissant. Vous les avez rencontrées. Elles ont pu vous donner peut-être des anecdotes ou des choses comme ça.
Si on parle de Pulchéri, Nixap, Mboussi, c'est quelqu'un qui est très, 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 très active dans la communauté. Alors, je lui ai parlé et j'ai appris des choses. Par exemple, je savais qu'elle était née au Cameroun. Je ne savais pas qu'elle était née à Yaoundé. Je savais qu'elle était née au Cameroun. Mais je ne savais pas certains détails de son enfance, par exemple, qu'elle était née dans une maison où il y avait 47 enfants. Alors, elle était l'une des enfants de son père, qui était chef supérieur du village, et de sa mère. Donc, il y avait plusieurs épouses, évidemment. Je ne sais plus combien il y avait d'épouses à ce moment-là. Et j'ai appris aussi tout son cheminement, tous les pays dans lesquels elle est allée travailler avec son mari. Elle faisait du développement international, donc elle le suivit. Et où elle a travaillé à rassembler la communauté des femmes, des coopérants, des épouses des coopérants, mais plus tard aussi les communautés africaines hors Afrique, par exemple à Haïti, à Québec, et puis évidemment maintenant à Victoria, parce qu'on parle de l'histoire de Victoria. Alors, le passé d'une personne, avant d'arriver à Victoria, parce que toutes nos femmes dont on parle ici ne sont pas nées à Victoria, elles ont migré vers Victoria pour une raison ou une autre, et ça depuis 1858, jusqu'à tout récemment. Alors, on apprend beaucoup à parler directement avec les personnes et ça nous donne une vision plus élargie. Ça nous donne un angle plus élargi sur ce qu'elles font maintenant. Alors, un message, c'est on a tout le monde notre place dans l'histoire. On a tout le monde la capacité, la possibilité de changer quelque chose, mais à petite échelle. Je donne un exemple très, très court. Amelia Douglas, qui est une des premières, elle est la première femme que l'on a illustré. Amelia Douglas, qui était une métisse du Manitoba, est devenue éventuellement la conjointe de James Douglas. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'on parle souvent de James Douglas comme étant le père de la Colombie-Britannique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que si sa jeune épouse de 16 ans n'avait pas défendu sa vie à lui alors qu'il avait commis une erreur monumentale, eh ben, il n'aurait pas été le père de la Colombie-Britannique. C'est elle qui a fait un changement par sa seule présence, par sa seule personnalité. Alors, parfois, les changements que l'on peut faire, qu'on peut apporter à l'histoire. Ce sont des tout petits changements qui, en bout de ligne, vont apporter là, des changements monumentaux dans la société.
Merci beaucoup, Marie-Hélène.
Au plaisir. À la prochaine.
Rendons-nous maintenant en Alberta, où l'Association des municipalités rurales s'inquiète. Il se trouve, imaginez, qu'elle attend depuis le 31 décembre 2021 que les pétrolières lui rendent enfin les 253 millions de dollars en impôts fonciers qui lui sont dus. Ceci au moment où les prix du pétrole flambent et que les factures s'accumulent. Les représentants de ces municipalités tapent du pied. Caroline Colibaba, la présidente du comté de Northern Sunrise, a bon espoir de récupérer le tiers des 3 millions que le comté attend. Elle estime qu'il est plus que temps que les pétrolières révisent leurs priorités. La guerre en Ukraine a fait décoller le cours du pétrole et l'Alberta connaît un taux d'inflation d'environ 5,7%. Caroline Colibaba menace de demander la suspension des licences d'exploitation des pétrolières si elles ne paient pas leur dû. Hélène Lequit.
L'Association des municipalités rurales a mené une enquête auprès de leurs membres. Dans un message sur leur site, il est révélé qu'au 31 décembre 2021, encore 253 millions de dollars d'impôts fonciers n'avaient toujours pas été versés par les sociétés pétrolières et gazières. On a demandé à Caroline Colibaba, la présidente du comté de Northern Sunrise County, de ce qu'elle pensait de cette situation en date d'aujourd'hui.
Most of the of our oil and gas industry is very good. They pay their taxes on time and the amount that they owe. There is a select few that are still working but not paying their taxes.
On vient de l'entendre, la situation reste mitigée pour Northern Sunrise County. Sur 3 millions d'impôts non payés, Caroline Colibaba a bon espoir d'en récupérer au moins 1 million. Actuellement, la province connaît une inflation de 5,7%. Alors que compte-t-elle faire si ces mêmes compagnies ne peuvent toujours pas payer? On écoute Madame Colibaba nous en parler.
Moving forward, we will get successes. If not, we're pushing the AER to, and the province to ensure that any licenses that come before them, if there is a red flag on there, they haven't paid their taxes, that those licenses not be renewed.
Cette fois-ci, l'avertissement est clair. Si les compagnies pétrolières perdurent à ne pas honorer leurs dettes, Caroline Colibaba demandera la possibilité de voir leurs licences suspendues pour les mauvais payeurs. Il est temps de réviser leurs priorités, a-t-elle partagé. Du côté de Smoky River, Robert Brochu, le représentant du comté, déclare avoir, lui, de bonnes relations avec les compagnies et n'a pas souhaité plus commenter la situation. En attendant, avec la guerre en Ukraine, les prix du pétrole flambent de nouveau. Hélène Lequit, Nord-Ouest FM.
Et bien voilà qui conclut cette édition de Point de vue, produite avec le concours des équipes radio de l'initiative de journalisme local postée à travers le pays. Cette émission est rendue possible grâce au concours du Fonds canadien de la radio communautaire. Suivez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous savez que les reportages qu'on vous fait écouter ici ne constituent qu'une infime partie de ce qui est produit au quotidien par nos journalistes, lesquels d'ailleurs travaillent dans les deux langues. On vous invite à nous suivre sur Twitter @CanadaLJI. @CanadaLJI. Vous pouvez aussi vous abonner à nos balados sur vos plateformes préférées. On remercie nos journalistes Sébastien Beltran, Angélique Germain, Hélène Lequit, Thomas Etier, de même que leurs invités. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique, qui ont leur adresse nos compliments. Merci à Stéphane Bénard, notre coordonnateur à l'info. Ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation, qui vous dit à la semaine prochaine.
sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web, ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org. KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, jeunesse plurielle, faune et violoneux, on danse non pas avec les loups, mais avec les bisons qui sont ravis d'être encore là après avoir été menacés d'extinction. Hélène Lequitte va nous en parler. 8 étudiants passent leur semaine de relâche non pas sur une plage du Mexique, de la Floride ou à dévaler des pentes de ski, mais dans les territoires du Nord-Ouest, dans un centre d'accueil pour jeunes de Yellowknife.
J'ai vraiment été comme confrontée à des histoires puis des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée avant.
Il est Madelino et acadien dans son cœur. Bertrand Deraspe aime autant son violon que de partir pêcher en mer.
La musique a eu beaucoup d'importance pour moi, mais la mer aussi. Si je partais en tournée, je m'ennuyais de la mer, mais j'ai toujours continué quand même à faire de la musique.
Et la Nouvelle-Écosse ouvre ses portes aux jeunes étudiants étrangers, avides d'une expérience nouvelle.
Et il y a quelque chose de presque thérapeutique ici en Nouvelle-Écosse. Les gens sont tellement sympathiques, sont tellement accueillants, sont tellement chaleureux. Pour eux, c'est toute une découverte d'être dans des écoles en Nouvelle-Écosse. Ça ne correspond pas du tout au système de leur pays. Après, pour les familles d'accueil, c'est un voyage.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Neuf élèves du Collège Sainte-Anne de Montréal ont profité de la réouverture des frontières au territoire du Nord-Ouest pour découvrir les territoires du Nord et prêter main forte au centre d'accueil pour jeunes Home Base de Yellowknife. Ces Montréalais participent au projet Défi Monde, un programme qui a été mis en place pour enrichir leur culture personnelle, élargir leur ouverture au monde, pour voyager, s'investir dans le mieux-être d'autrui et suivre la voie du citoyen engagé, précise le Collège Sainte-Anne, auquel ces jeunes sont affiliés. Ces élèves de 5e secondaire ont consacré toute leur semaine de relâche à rénover le centre d'accueil pour jeunes Home Base et bien sûr à échanger avec de jeunes adultes des collectivités du Nord et s'exposer à des réalités bien différentes des leurs. D'autres élèves de leur école se sont rendus quant à eux à Meraki en Colombie-Britannique et un autre groupe aux îles de la Madeleine. Alors notre journaliste Thomas Haïtier a rencontré deux d'entre eux, Alexandra Tarnowski et Yann Yao, Alex Lee.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous raconter un peu ce que vous venez faire dans le Grand Nord canadien pendant votre semaine de relâche?
Dans le fond, on est un groupe de 8 étudiants puis une coach qui viennent faire un projet avec le home base ici à Yellowknife. On vient pour... on a réaménagé 3 de leurs pièces pour les rendre plus comme confortables et chaleureuses pour qu'ils puissent comme plus les utiliser. Parce que les personnes qui travaillaient là-bas nous disaient qu'ils étaient vraiment pas souvent utilisés puis que c'était des grands espaces, qu'ils voulaient que ça soit plus des espaces communs.
Dans quel contexte est-ce que vous venez ici?
Dans le fond, nous deux, on est des étudiants du programme Défi Monde. Et depuis notre secondaire 1, on était dans la même classe. On est dans une classe d'environ 36 personnes. On a travaillé 5 ans pour être en secondaire 5. Et au secondaire 5, on est séparés en 4. Chacun de ces 4 équipes, on va dire, ils ont tous un coach. Et ils vont aller en projet intégrateur. Et dans le fond, c'est nous qui vont choisir l'endroit, le pays dans lequel, l'endroit dans lequel on va faire notre projet. Pour nous, on avait, dans le fond, choisi le Yellowknife parce que y a une grande partie de ça, c'était en lien avec la pandémie, la COVID-19. Parce que dans les années passées, les programmes les défis mondiaux, on va dire, c'est ça qu'on les appelle, ils sont toujours allés dans des pays plus loin, on veut dire, comme en Afrique, en Asie, des pays plus...
Sur d'autres continents, là.
D'autres continents, il y avait, ouais, plus dans, des pays qui sont peut-être... J'étais payé plus loin.
Plusieurs personnes en Caraïbes de Montréal, ils avaient une image qui correspondait pas nécessairement à ce qu'ils voient. Comment est-ce que vous trouvez Yellowknife? Est-ce que vous êtes dépaysé?
Le Canada, c'est un gros pays. Alors, quand on vient à Yellowknife, c'est quand même très différent qu'à Montréal.
En fait, c'est une des raisons qu'on a choisi Yellowknife parce que à cause de la pandémie, ils ont dit qu'il fallait rester au Canada. Puis on a trouvé que probablement à Yellowknife, on serait le plus dépaysé comparé à comme... Vancouver, on peut quand même être dépaysé, mais c'est quand même une grande ville et tout. Donc, on a trouvé qu'ici, surtout avec les aurores boréales, et comme personne dans notre équipe n'était jamais venu ici. Donc, c'est une des raisons qu'on a choisi ici.
La mission comme telle, comment ça s'est passé?
Notre mission pour notre projet?
Oui, tout ce qui s'est... Le temps que vous avez passé là, au centre d'accueil.
Une des choses que le programme veut nous comme, faire vivre, c'est l'ouverture à l'autre. Donc ça, c'était une de nos plus grandes choses, c'est aller à la rencontre de l'autre puis de vraiment apprendre plus sur des situations qu'on connaît moins et vraiment essayer d'avoir comme une ouverture d'esprit puis être un peu sorti de notre zone de confort. Donc j'ai définitivement vécu ça.
De quelle manière? Dans vos échanges avec les...
Il y a aussi un gros volet de notre projet, c'est qu'il faut faire un reportage et un documentaire. Puis ça, c'est la partie sur laquelle on est évalué. Donc, on a fait quelques entrevues avec les jeunes puis avec les personnes qui travaillent au centre d'accueil. Puis ça a été vraiment touchant. Puis je pense que c'est où j'ai fait le plus d'apprentissage dans ce voyage. J'ai vraiment été comme confrontée à des histoires puis des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée avant. Puis notre mission, c'était aussi peut-être juste d'amener... du bien, tu sais, faire quelque chose qu'eux, ils ont sincèrement besoin de. Quand on les a contactés, on leur a pas dit « Ah, on va venir faire ce projet-là », on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Donc, je pense qu'une de nos missions, c'était vraiment de comme, combler un besoin, vraiment, au lieu de juste dire « Ah, moi, je sais qu'est-ce que vous avez de besoin, puis... »
Ben, qu'est-ce que vous avez appris, oui? Est-ce que vous aviez eu l'occasion auparavant d'avoir des échanges directs comme ça?
Pour moi, dans le fond, à travers les 5 années dans le programme Défi Monde, on a quand même une ouverture d'esprit qu'on était enseigné. Et je vais pas dire qu'on connaît les situations, mais on a bien fait quelques recherches sur soit les personnes au centre d'accueil ou encore
au home base
ou encore les foster homes en général. On a déjà entendu qu'il y a une grande parfois, ils sont là pour diverses raisons.
Tout à fait, oui.
Et ils sont toujours des raisons. Je sais pas, on a été enseigné en défilement de jamais, genre, « Ah, ils sont ici parce qu'ils prennent de la drogue, là, ils sont des mauvaises personnes. » Évidemment, on a jamais pensé ça. Je vais pas dire complètement à cause de notre programme, mais oui, en quelque sorte, on a été enseigné
pas on pensé ça. On veut sortir des stéréotypes.
Exactement.
Ça devait être extrêmement intéressant. Vos cours sont, j'imagine, en grande partie théoriques. Ben, de parler, de discuter, d'échanger directement dans le Grand Nord canadien.
Oui, il y a bien sûr des cours théoriques, mais on a aussi quelques expériences peut-être juste à Montréal. On a fait du bénévolat. On est parti à la découverte, dans le fond. Et ici, encore une fois, ça nous a prouvé que ce qu'on a été enseigné, c'est vraiment genre important. Parce que, on a déjà... Je peux aller à discuter, à expliquer, mais c'est comme si on était... expliquer que la réalité peut être différente et la réalité, pour certaines personnes, c'est difficile et qu'il faut leur comprendre. Mm-hmm. Mais après avoir parlé aux jeunes adultes, aux home base, on a vraiment réalisé que c'est réel, là. C'est vraiment genre une réalité. C'est pas juste des histoires qu'on rencontre. Ouais. C'est beaucoup plus commun qu'on pourrait penser.
Je pense que ça nous a aussi permis un peu de comme sortir de notre petite genre bulle. Parce que surtout en classe, même s'ils nous apprennent des cours de théorie, puis tout, on est quand même dans une bulle d'apprentissage, puis de comme, notre petite vie, là, puis tout. Puis là, vraiment, d'entendre les témoignages et tout, ça nous confronte vraiment face à face avec...
La réalité.
Les histoires, puis la réalité, puis... Je pense que ça m'a permis de vraiment réaliser à quel point, genre, j'étais choyée dans ma vie, puis tout.
Donc, prochaine étape, on tourne à Montréal et vous allez faire, vous dites, un rapport, un reportage par rapport à votre expérience.
Comme elle a expliqué déjà, c'est un reportage ou encore et aussi un documentaire. Le reportage, ça toucherait sur notre projet, notre expérience à Yellowknife. Et le documentaire, c'est notre choix dans le fond. Et nous, on a décidé de choisir de parler de la situation...
Des réalités de vivre comme dans un centre d'accueil.
Pour les jeunes et on va vraiment toucher sur l'importance de l'environnement dans lequel on grandit et comment ça pourrait affecter notre futur.
Ça me semble très intéressant. Bienvenue à Yellowknife. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent séjour.
Merci à vous. Merci beaucoup pour l'expérience.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Voir des bisons à l'état sauvage est encore possible un peu partout en Amérique du Nord, dont en Alberta, notamment du côté de la ville de Zama dans le comté de Mackenzie. Plusieurs s'émerveillent d'en croiser à environ 300 mètres de la route. D'ailleurs, près de 600 bisons des plaines vivent aujourd'hui dans le nord-ouest de cette province canadienne. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Son cousin, le bison des bois, figure encore sur la liste des espèces menacées d'extinction. Le bison des plaines, lui, parcourait autrefois librement l'Amérique du Nord. On comptait entre 30 et 70 millions d'individus dans les années 1800, imaginez. Aujourd'hui, grâce à leur réintroduction dans les années 1980, on peut les observer en Alberta, mais aussi en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Manitoba, et aussi dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, que deviennent nos bisons canadiens? Notre journaliste Hélène Lequitte en discute avec Natalka Melniki, biologiste de la faune sauvage et résidente de Rivière-de-la-Paix depuis 8 ans.
Au lieu de compter les moutons, on peut compter les bisons. Il y a plusieurs jours, près de la ville de Zama, dans le comté de Mackenzie, un internaute a posté une photo où environ une centaine de bisons marchaient à environ 300 mètres de la route. Un spectacle qui fait plaisir à voir, mais est-ce aussi inhabituel qu'il n'y paraît? On s'est tourné vers Natalka Melninski, biologiste de la vie sauvage. Elle vit et travaille depuis 8 ans à Rivière-la-Paix. On l'écoute nous en parler.
It's not unusual. This area is often populated by larger groups of wood bison. They came to the area through a reintroduction back in 1983. This was a Canadian Wildlife Service initiative to reintroduce wood bison into four different jurisdictions within Canada. This bison was a joint effort between the DENITA, the Canadian Wildlife Service, and the Alberta government at the time.
De quelques individus, nous sommes passés à plusieurs centaines. Combien y a-t-il de bisons sauvages à présent en Alberta et dans la région? Natalka Melniki Helsinki nous partage ces statistiques.
That population started from just a few individuals brought up from Elk Island National Park. Since that time, they have expanded quite a bit and grown in population size. We do manage them to a goal of between 400 and 600 individuals is often where we get reports of sightings of larger groups of these wood bison.
Depuis leur réintroduction en 1983, aujourd'hui entre 400 et 600 bisons foulent quotidiennement le sol albertain en partant du parc Elk jusqu'à la zone de la ville de Zama. Le bison sauvage fait de nouveau partie du paysage après avoir été proche de l'extinction. Aujourd'hui, l'Alberta lui a donné le statut d'espèce en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en danger, The Wildlife Act de l'Alberta. Puisqu'un symbole de la culture et de l'histoire canadienne, il participe aussi à l'écosystème.
Bon, les bisons, vous savez, il y en a en pleine nature, bien sûr, mais aussi dommage pour eux sur nos tables. L'élevage du bison est de plus en plus populaire. Les Européens en sont eux aussi friands, si bien que l'Association des producteurs de bisons de l'Alberta a le vent en poupe.
Partait à 100 lieues à la garde de Dieu, sur de vieux rafiaux, passait souvent sous l'eau. Affrontait la mer à voile et à prière. Pour femmes et enfants revenaient en amont.
Le musicien madelino Bertrand Deraspe est un violoneux bien connu des îles de la Madeleine, mais aussi dans toute l'Acadie. Les Acadiens de Chéticamp, Nouvelle-Écosse, et ceux des îles de la Madeleine ont toujours, dit-on, entretenu des liens étroits, et Bertrand Deraspe est de ceux-là. Et un homme particulier. Il aime autant s'adonner à son métier de pêcheur, duquel il vit depuis près de 45 ans, et prendre la mer, respirer l'air du large, que de suivre les airs des musiques qui ont bercé son enfance et sa vie, la mer que l'on retrouve dans son répertoire musical. Bertrand Deraspe a littéralement grandi entouré des violons de son père et de ceux de plusieurs violoneux des îles de la Madeleine et du Cap-Breton que sa famille côtoyait, parmi eux Winston Scottie Fitzgerald du Cap-Breton et Tijan Carignan du Québec. Bertrand Deraspe est aujourd'hui devenu une figure de proue du patrimoine musical madelino et acadien. Notre journaliste Daniel Aucoin, basé à Chéticamp, lui a ouvert son studio.
Bertrand Deraspe, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Bienvenue au Cap-Breton, bienvenue à Chéticamp.
C'est dit que ça fait plaisir de voir les cousins.
Ça fait quand même longtemps que tu n'étais pas venu au Cap-Breton.
Ah, ça fait au moins, je ne vais pas compter les années, mais ça a été long. Au moins une dizaine d'années, certains, je penserais. Parce qu'auparavant, je venais à tous les fins de pêche, je ramenais mon équipage avec moi, puis on s'organisait pour venir au Dorryman pour une journée ou deux.
Bertrand, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette connexion entre les gens des îles de la Madeleine et les gens de Chéticamp. On peut dire que c'est de la famille.
Ah, sacrement, je comprends. Puis surtout, moi, mon petit village, c'est Pointe-aux-Loups. Puis il y a juste la dune c'est la dune qui nous relie avec Fatima. Puis Fatima, Chéticamp, c'est encore plus, là. Mais c'est sûr que ça connecte certains.
Alors, toi, tu es musicien, chanteur, violoneux. La musique, ça a toujours été important dans ta vie?
Oui, ça a toujours été important. De toute façon, mon père était violoneux, puis il faisait la pêche. Ça fait que la musique a eu beaucoup d'importance pour moi, mais la mer aussi. Ça fait que séparé des deux, puis tout ça pour dire que tout ce que j'ai composé, ça a rapport à la mer et aux accents et tout ce que... Si je partais en tournée, je m'ennuyais de la mer, je m'ennuyais des îles, mais j'ai toujours continué quand même à faire de la musique. C'est juste pour moi de la cave, comme on dit.
Tu as commencé à jouer du violon, tu n'étais pas vieux, tu avais 4 ans?
Oui, c'est ça, c'est que mon père était souvent parti dans ce temps-là. Il travaillait comme débardeur quand la pêche était finie. Et puis, quand il arrivait, je m'ennuyais, comme de raison. Ça fait qu'il m'assoyait sur ses genoux, puis il me faisait jouer du violon. Mon père, il s'appelait Arnold. Il avait des violons partout dans la maison. Il avait un violon au sous-sol. Il avait un violon dans son building, à côté de sa bâtisse. Il en avait un au salon. Mm-hmm. Puis toujours qu'il jouait. Il pouvait commencer à travailler, puis à un moment donné, on le perdait de vue, puis il était en train de jouer. Puis il écoutait surtout la musique du Cap-Breton.
T'as été un membre fondateur du groupe Suroi, toi?
Oui. Alcide Pinchot, Pierrot Deras, puis moi-même, Bertrand. Ça a débuté dans les années 76, je penserais. puis, c'est ça, on a drivé ça jusqu'à, comme moi, jusqu'à 80, en 92. En 92, ça a changé d'équipage, parce que moi, de toute façon, quand on partait en tournée, moi, c'était toujours un problème, parce que je faisais la pêche. T'sais. Puis, te faire remplacer une semaine sur la pêche, là, disant que tu t'en vas en France, c'est correct, là, mais quand tu y vas trop souvent, c'est pas fameux.
C'est vrai que c'est comme au Cap-Breton, aux îles de la Madeleine, il y a beaucoup de musiciens chez vous. Hein?
Ah oui, il y a beaucoup de musiciens. Il y a des musiciens presque dans tous les maisons. C'est violon, c'est guitare, c'est accordéon. C'est... Mon père, il ne vivait que pour la musique du Cap-Breton.
Il y a eu Jerry Harlan, il y a eu Winston Scottie Fitzgerald et bien d'autres.
Oui, Jerry Harlan, il y a eu Arthur Muse. Mm-hmm. C'est tous des gens qui sont venus à la maison chez nous. Puis, ouais, qu'on a passé des grandes journées.
Ah ben oui, ça va swinguer au Festival du Roman. Ça se passe à la grande entrée, puis venez tous vous amuser. Mettez vos bottes de rubber, puis embarquez dans vos chars. Ils vont en voir en masse, on va se bourrer si vous voulez. Et à la fin de la soirée, ils vont en avoir des magadés. Tilletadilam, ça arrive bien qu'une fois par année. Tilletadilam, lalalalam, tilletadilam, lalalalalam, tilletadilam.
Parle-nous de tes enregistrements, t'as deux albums?
Ben, le premier album de Suroua. Après ça, il y a eu la... l'enregistrement avec Si l'amour prenait racine, une cassette. Je vais faire une autre petite cassette. Mais bon, je l'appelle la cassette grise. C'est pas peut-être pas la maison grise, mais c'est la cassette grise. Et puis, j'ai fait un album avec Vent arrière. Un violon, il n'y a pas tellement longtemps, mais ça s'appelle Mes racines, je pense que vous l'avez. Mm. Puis le tout dernier, ça a été Pêcheur de tradition. C'est des compositions qui parlent des timbres marins des îles avec l'accent.
Comment on explique qu'aux îles, vous avez conservé les coutumes, le folklore, les chansons traditionnelles? Est-ce que c'est parce que vous êtes isolé au milieu de l'océan?
Nous autres, nos traditions, on les fait surtout comme l'hiver. Nous autres, on dit que c'est l'hiver, c'est l'âme des îles, en fait, compte. Parce que l'hiver, tu peux pratiquer ta mi-carême, la chandeleur, ici et ça. Puis l'hiver, ben, tout le monde est parti. Pas nécessairement le mauvais monde, mais ce qui arrive, c'est qu'on se réunit plus ensemble. C'est vraiment du monde des îles. T'sais.
C'est dommage qu'on est si loin, Chétiquan et les îles. C'est, on n'est pas loin, mais on est loin.
Oui, c'est ça.
C'est ben, compliqué de se rendre chez
c'est
vous.
Compliqué, certain. Puis c'est que si le bateau viendrait ici, ben, c'est sûr que c'est l'île du Prince-Édouard qui l'attraperait, là. Mais ça serait mieux pour vous autres économiquement. Mais c'est pas nous autres qui décident. Puis dans l'autre côté, ça reviendrait au point de vue distance quasiment la même. Là, mais ça serait au moins au communiquer ensemble puis au partir.
Alors Bertrand Deras, c'est toujours un plaisir de t'accueillir à Chétiquan. Merci d'être venu dans nos studios et bravo pour ta musique. On espère qu'on aura la chance de te voir une autre année lorsque la mi-carême sera normale.
Oui, que tout le monde, il n'y aura pas de caméra.
Merci beaucoup.
Non, on n'aura pas besoin de caméra. Ben, merci beaucoup, puis salutations de Chétiquan, puis on va raconter ça au Grand des Îles.
Le Conseil scolaire acadien de la Nouvelle-Écosse est à la recherche de familles pour accueillir des jeunes étudiants internationaux. Étudier à l'étranger est aujourd'hui beaucoup plus facile que cela n'était dans les années 80 ou 90, par exemple, en tout cas à partir du Canada. On le remarque dans nos écoles secondaires, collèges et universités, les étudiants étrangers sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur cursus scolaire ici au pays. Et inversement, on peut maintenant passer plusieurs mois, voire plusieurs années à étudier à l'étranger, tout en se faisant créditer les cours qu'on y suit. Pour preuve, en 2019, 250 000 étudiants ont choisi le Canada comme destination d'études, faisant du Canada l'un des plus attractifs auprès des jeunes. C'est ce que rapporte en tout cas l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE.
L'idée n'est pas étrangère aux écoles francophones du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse, qui est actuellement d'ailleurs à la recherche de familles qui souhaitent accueillir des jeunes de 12 à 19 ans qui viennent étudier dans l'une des 22 écoles francophones du Conseil scolaire acadien. Le Conseil a mis ce programme sur pied il y a quelques années seulement. Il reçoit déjà un accueil très favorable. Pour nous parler du programme d'accueil d'étudiants étrangers, Sébastien Beltran a rencontré Karim Amedjou, le coordonnateur de la diversité culturelle au Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse.
Vraiment, notre objectif, c'est d'aller chercher des élèves francophones de 12 à 19 ans, cette diversité culturelle, mais en même temps, on veut que ces élèves-là soient vraiment fonctionnels au niveau de la langue française, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour les autres écoles des centres scolaires anglophones. C'est vraiment important d'avoir ce désir-là d'accueillir un élève international parce qu'en l'accueillant, on découvre toute une autre culture et il va faire partie de la famille. Donc, il faut le prendre en charge et il faut aussi lui permettre de découvrir aussi à la région puis la Nouvelle-Écosse.
Donc, les élèves qui viennent, on est bien d'accord, hein, ils viennent pour leurs études et aussi pour découvrir un petit peu la culture et un nouveau pays. Ils ne viennent pas travailler.
Non, en fait, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas du tout. Ils sont là pour poursuivre leurs études. On a eu des élèves qui sont venus, qui se sont inscrits en 10 et en 11 et en 12. Ça change un petit peu au niveau de l'intention. Il y en a vraiment qui viennent pour les études parce qu'ils veulent poursuivre leurs études par la suite au Canada. Il y en a qui viennent pour faire le bac international chez nous. Il y en a qui viennent aussi pour vivre cette expérience-là quand même d'une région majoritairement anglophone, mais où le français et la communauté francophone existent aussi, mais pour la découverte culturelle. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important aussi. En ce moment, par exemple, on a un élève qui nous vient de Mexique, donc il est mexicain, mais il est aussi canadien. Et puis lui, c'est vraiment le désir de découvrir un autre système éducatif que celui de son propre, de son pays, qui est le Mexique.
Donc avec l'expérience de ces deux dernières années, même si on a eu la COVID, donc quel retour ou quel sentiment avez-vous pu recueillir de la part des familles ou des élèves qui sont venus?
Que du positif, c'est-à-dire que les élèves, quand ils arrivent au début, ils sont un petit peu, bien évidemment, anxieux, un petit peu inquiets, un petit peu réservés, parce que, mine de rien, ils quittent leur famille, ils quittent leur racine, entre parenthèses. Mais après, ici en Nouvelle-Écosse, on a quand même une force d'accueillir les gens. Il y a quelque chose de presque thérapeutique ici en Nouvelle-Écosse. Les gens sont tellement sympathiques, sont tellement accueillants, sont tellement chaleureux. Donc, c'est que des belles expériences. Après, ce qu'il faut savoir, que parfois aussi, un élève peut arriver, il peut être hébergé par une famille d'accueil, mais pour des raisons de compatibilité, ça peut ne pas fonctionner avec un tel élève aussi. C'est là que nous, on intervient. Donc là aussi, il y a beaucoup de flexibilité. Donc les familles d'accueil, elles sont aussi appuyées. Et c'est là aussi le travail que je fais aussi avec les familles d'accueil. C'est un retour positif de la part des élèves parce que pour eux, c'est toute une découverte d'être dans des écoles en Nouvelle-Écosse. Ça ne correspond pas du tout au système de leur pays d'origine. Après, pour les familles d'accueil, c'est un voyage. C'est vraiment un voyage et pour les adultes, mais aussi pour leurs enfants aussi, parce que c'est toute une découverte d'avoir quelqu'un qui parle français, mais qui parle d'autres langues, qui nous parle d'autres choses, qui cuisine autre chose. C'est vraiment une belle expérience humaine et culturelle.
Merci Karim d'avoir partagé toutes ces informations.
Merci Sébastien.
Eh bien voilà, c'est déjà tout pour nous à Point de vue cette semaine. Vous pouvez écouter toutes nos émissions sur le site canada-info.ca, canada-info.ca, les suivre aussi en balado si vous le souhaitez. On remercie nos journalistes Thomas Etier, Sébastien Beltran, Hélène Lequitte, Daniel Lecoin et leurs invités, notre coordonnateur en information Stéphane Bénard et bien sûr les artistes qui nous prêtent leur musique, merci. Les équipes radio de l'Initiative de journalisme local sont des boulimiques d'informations. Ils sont une quinzaine postés dans les provinces et territoires canadiens à fouiner des informations de première main et produisent des douzaines de reportages à chaque semaine que vous pouvez évidemment consulter sur le site de canada-info.ca, canada-info.ca. Suivez-les aussi sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. On vous rappelle que cette émission vous est présentée grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire avec la précieuse collaboration de votre radio locale. Ici Boris Chassagne, merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
@CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
What's up, everybody? This is the one and only Miss Chris. I'm so happy to be back for another beautiful week. I just want to start by saying that, first of all, thank you so much, because, you know, I've been going out a lot this weekend. I was able to witness a lot of beautiful performance. A few ones that I really want to mention, for example, the Silent Hill performance. You know, Mimi Virus, she tore that place down. You had to be there at NDQ, I think yesterday, last night, you had to be there. Miss Virus, she showed us the light at the end of the tunnel, if I do say so myself. If you were there, you'll get the reference. And I also want to give a shout out to Antonia. I got to see her perform last weekend at URSA, the weekend before, which, let me tell you one thing, the girl is a vocalist, the girl can sing, and the girl can perform and host a crowd. So y'all better check her out. I'm going to play some of her music alongside later. And also want to give a shout out to my good sis, Miss Glozy, alongside Osman. I know they're working on some amazing stuff. You know, they're laying low right now, but you guys should keep an eye on them, because there's some stuff coming out along the way. And one of the shout outs, the last one, before we get into the show today, I want to give a big special thanks to the team of La Journée d'études cliniques de Montréal, you know, the medical conference that I got to perform that a few days ago on Friday. You guys were amazing. The conversations, everything was just, everything up perfect. The mic is way better right now. So everything was just going amazingly well. The conference was just